pierre à ferraille.
Eh les gars, j'ai fait des recherches pour mon travail. Apparemment, l'informatique, l'électronique, le cyberspace, c'est l'avenir. À mon avis, il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus pour être dans l'air du temps. Vous auriez pas des films à proposer pour illustrer ça ?
Ah carrément, moi j'ai un truc, c'est simple, tout simplement le film d'une génération.
Ouais, moi ça va être pareil, c'est sur les objets connectés, j'ai la VHS connectée, et là c'est l'avenir.
Ah bah moi j'ai été deux fois au Futuroscope, donc le sujet je connais sur le bout des doigts.
Ah excusez-moi, j'étais sur MSN là, je prenais un conseil auprès de Super Doudou du 42, et il m'a conseillé un super film pour ce soir.
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans les cas.
Révéra Ferret présente Nanorland, le podcast des mauvais films sympathiques. The podcast about likable bad movies. Подкаст о второсортном кино, которое мы все так любим смотреть.
De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja.
Alors, tu es convaincu?
Je n'y comprends plus rien. J'ai peur de faire le moindre mouvement.
Ça n'a rien à voir. C'est ton esprit qui réagit.
Depuis les studios Nanorland, Paris et Grenoble. From Nanorland Studios in Paris and Grenoble. Сделано в студии Nanorland в Париже et Grenoble.
Dans tes veines coule le sang d'un dieu venu d'un autre monde. Tu es l'homme Puma.
Bonjour et bienvenue dans Nanorland le podcast des mauvais films sympathiques. Un podcast où on s'amuse à vous parler de ces films tellement ratés qu'ils en deviennent hilarants et à vous raconter les histoires de celles et ceux qui en sont à l'origine. Vous l'avez peut-être entendu, nous sommes en plein débat sur la neutralité du net. C'est pourquoi nous avons décidé de vous parler de trois nanars qui mettent en avant, à leur manière, le cyberspace, l'informatique, bref, les, ouvrez bien grand les guillemets, nouvelles technologies. Je ne suis pas seul pour mener à bien cette mission. En direct depuis la French Silicon Valley grenobloise, j'ai trois valeureux chroniqueurs. Régis, comment ça va ?
Ça va, salut.
Fabien, comment ça va ? Je sais que t'as souffert pour arriver jusqu'ici.
Oui, oui, j'ai passé moult dangers et multiples péripéties pour arriver à ce podcast, mais je suis vivant.
Et Rico, alors, comment ça va ?
10, print, salut les nanardeurs. 20, go to 10, back to basic.
Oh, une vanne de front-end développeur. Ah, et ici à Paris, de l'autre côté du Skype, à côté de moi, il y a Julien. Comment ça va ?
Ça va, salut Martin, bonsoir, bonsoir à tous.
Bon, alors, je sais que vous avez préparé secrètement trois gros nanars bien technologiques. Je suis le seul à connaître les trois films et je sais d'ores et déjà qu'on va avoir un pur programme. Connaissant les trois films, je pense que ça serait sympa si Fabien commence. Fabien, est-ce que tu te sens prêt à nous faire ta chronique ?
Eh ben écoute, je vais relever le défi, pourquoi pas, après tout, moi dans Nouvelle Technologie, ce que j'entends c'est le terme ludique, en fait, de la Nouvelle Technologie, c'est pour ça que je vais parler d'un film qui concerne les jeux vidéo. Et oui, uh-huh. Et pas n'importe quel film, un film français consacré aux jeux vidéo, qui date de 2001.
Oh,
est-ce que vous savez un petit peu
une grosse idée.
Hugo Délire The Movie.
Hugo Délire de ce movie avec Karen Sherrill, et tout à fait, ça aurait été tellement bien, mais
on aurait fait un podcast avec Ariel Lombard.
C'est alors il y a un des deux termes qui est juste, effectivement, c'est le film Gamer. Voilà. Donc réalisé en 2001 par Zach Fishman. Laissez-moi rire, en fait non, réalisé par Patrick Lévy, en fait c'est un pseudo. Gamer, ça parle de quoi ? Donc ça parle de la vie de Tony, qui est une espèce de petite frappe jouée par Saïd Tagmaoui, qu'on connaît pour son rôle dans La Haine, qui est accompagné de son acolyte.
Il a aussi joué dans Confession d'un dragueur avec Thomas Dutronc, un film signé Alain Soral.
Bien plus tard. Mais à cette époque,
on parlera des gourous dans une autre émission.
À cette époque, vraiment, son grand fait d'armes, c'était La Haine, et puis il est accompagné de son pote Rico. D'ailleurs.
Excellent personnage.
Voilà, qui est joué par Bruno Salomon, qui avait pour fait d'armes de faire la voix off de Burger Quiz.
Ouais. Excellent jeu.
Excellente émission. Voilà. Bon, il a fait autre chose après Bruno Salomon, mais à l'époque, c'était pas vraiment ça. Et donc, Saïd Tagmaoui, donc Tony, vit de petits larcins, il cambriole à droite et à gauche, c'est une espèce de petite frappe. Il a une grande passion dans la vie, en fait, c'est les jeux vidéo.
si bien qu'il en parle à peu près toutes les 3 ou 4 lignes de dialogue en faisant du name dropping. Donc on a droit du Lara Croft par-ci, du Mortal Kombat par-là, du Tekken par-ici, bref. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, il se fait serrer par la police, et du coup, il fait 8 mois de prison. Et pendant ces 8 mois de prison, qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux jeux vidéo, figurez-vous. Donc, ce qui prouve que dans les prisons, on trouve un peu n'importe quoi, parce que pendant l'ellipse où justement il est en prison, on le voit faire des jeux vidéo, on le voit dessiner, on le voit faire des pompes. Et quand il sort de là, il est tout content parce qu'il a trouvé sa voie, il a trouvé une illumination, il va devenir créateur de jeux vidéo. Donc, ça montre deux choses. La première, c'est qu'effectivement, le système carcéral français fonctionne. Voilà, donc bravo à lui.
Bravo au système carcéral.
Voilà. Et en deuxième, c'est qu'en prison, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer parce qu'on peut jouer à la Nintendo 64.
C'est marrant, moi j'ai bossé en prison, mais c'est pas le souvenir que j'en ai quand même.
Tout à fait, voilà.
Coup de chapeau à tous nos auditeurs qui nous écoutent en prison ce soir.
Voilà, je pense ils sont très contents.
Vous mangez pas.
Alors non, mais ce qui est formidable en fait dans Gamer, moi, alors c'est pour moi c'est un petit nanar savoureux en fait, c'est que ils essayent à tout prix de coller à un monde de jeux vidéo sans vraiment y arriver, si bien qu'ils en prennent un petit peu les petites ficelles, voilà, tout ce qui peut rappeler un petit peu les jeux vidéo. Notamment, il y a des cartons où c'est marqué level 1, level 2, level 3 dans la vie de Tony. Et notamment, cette énorme faute de français où quand il réussit une action, ça marque Tony win. Voilà, au lieu de wins,
je me rappelle d'un truc dans le film aussi qui marque dès le début que ça va pas être réaliste et qu'ils y connaissent rien, c'est que le mec veut devenir créateur de jeux vidéo pour devenir riche.
Oui, voilà, je vais devenir riche parce que justement je vais créer un jeu qui mêle Tomb Raider, Mortal Kombat, bref tout et n'importe quoi, donc un espèce de melting pot. Et il y a deux scènes formidables dans ce film, c'est des scènes faites en images de synthèse. Donc il y a notamment une grande scène de course-poursuite entre sa voiture et la voiture des flics. C'est hyper mal fait, j'ai envie de dire, autant effectivement prendre Hugo Délire le film, ça aurait été meilleur. Et puis il y a une scène de baston aussi, où ça marque Bad Guy Lose. Donc voilà, toujours en oubliant le S à la fin. Et j'ai remarqué en fait, c'était un très bon moyen de faire des effets spéciaux pour éviter de faire des effets de cascade. Et c'est ça qui est vachement rigolo dans le film, c'est que si vous voulez plutôt que faire des vraies cascades de voitures, on préférait faire ça sous forme d'image de synthèse pour faire strictement quelque chose de pire et de plus pourri. Et autre avantage du film, c'est qu'on a une paire d'acteurs que moi j'aime beaucoup, dont la chef de, enfin l'éditrice vidéo, qui est jouée par Arielle Dombal, excellente actrice. Voilà, qui a une espèce
pendant qu'elle fait ça, elle fait pas des disques.
Au moins pendant ça, elle fait pas de disques. Voilà, pour moi, enfin, Ariane Dombal, elle a un peu le charisme d'un tabouret. Et je vous ai sélectionné un extrait où justement elle exerce un petit peu de toute sa poigne et de tout son accent américain pour montrer qu'elle est dans le jeu vidéo et que c'est elle la chef.
Pour la conférence de presse.
Silence! Depuis le temps que vous galérez avec vos projets minables. Là, je crois que ça y est, on le tient, notre Tomb Raider. Alors, j'imagine une héroïne super positive, blonde, hyper sexy, une méga guerrière qui ravage tout sur son passage, irrésistible, un modèle pour les garçons, les filles, de 7 à 77 ans.
Et vous pensez à qui pour la guerrière?
Justement, moi.
Oui, donc en plus elle décide d'utiliser son image comme personnage principal du jeu vidéo. Alors faut dire ce qui est en fait, Gamer est au jeu vidéo ce que l'Amstrad 6128+ est à la console portable, ce que Tetris est au jeu de rôle, ce que FIFA est au jeu de la course automobile, bref quelque chose de très vain. En fait,
et on sent là déjà qu'elle sait pas de quoi elle parle.
Elle sait pas de quoi elle parle en fait.
Ça s'entend, même si je sais pas.
Ça me fait, tu sais quoi, ça me fait penser, à Mike Brandt qui chantait en français en phonétique.
Ouais, en fait, pour faire croire
qu'il chantait français. Et elle, on dirait qu'elle balance phonétiquement cette phrase de jeu vidéo. En fait, sans vraiment
on
comprendre
qu'elle
ce qui se passe.
Lit le dos de la jaquette, en fait.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc du coup, il y a un côté, BHL là-dedans, je trouve. Bref, peut-être parce qu'elle le connaît.
Côté Ariel Dombal, moi je trouve.
Ouais, aussi un petit peu, peut-être qu'il éteigne les uns sur l'autre.
Ça s'autosuffit, Ariel Dombal, je trouve.
Non, mais en plus, c'est vraiment un film qui mérite d'être vu pour ses effets spéciaux de jeux vidéo parce que on est en 2001 et à l'époque moi je me suis renseigné sur des sites internet en 2001 qu'est-ce qui était sorti en jeux vidéo et c'était sorti Gran Turismo 3, Max Payne, Devil May Cry, GTA 3, Quake 3 Revolution, Final Fantasy 10, Diablo 2, Silent Hill 2, Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un espèce de sous-visiteur, le jeu vidéo. Je sais pas si vous avez joué à cette bouse. Le truc horrible. Et c'est, mais vraiment, c'est indigent. C'est indigent. Et moi, je me souviens effectivement à l'époque quand le film était sorti, il jouait un petit peu là-dessus sur le côté effets spéciaux à la française. Alors, heureusement, en termes de jeux vidéo, la France a fait mieux entre temps, avec des vrais studios. Et puis, en parlant de ça, justement, il y a aussi un autre acteur que j'aime beaucoup. Si je vous dis les filles d'à côté, vous pensez à qui?
Marc, les filles d'à côté?
Non, c'est le
Gérard Vives.
Gérard Vives. Ah. Gérard Vives Gérard qui Vives. Fait le rôle d'un acteur américain. Et là, je vais vous passer du coup deux extraits, les uns à la l'un à la suite de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il fait le rôle d'un acteur américain qui a donc l'accent américain un peu à la Jean-Claude Van Damme. Sauf que ben, son accent américain, il le perd une phrase sur deux.
Il faut absolument que vous m'aidiez, monsieur Lambert. Après tout, on vous a baisé aussi quelque part. On baisse pas Marcus Lambert quelque part, ok? Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Moi, j'ai toujours envie de faire le jeu vidéo avec vous. Le problème, c'est que j'ai plus d'éditeur. I don't give a shit. Alors écoute, petit. Moi, je t'aime bien, mais là, tu commences sérieusement à me gonfler. If you know what I mean.
Ah, la musique d'époque.
Attends, du coup, il faisait qui, là? On entend... C'était le mec qui parlait...
Ouais, qui fait « I don't give a shit ». Et on ne baisse pas Marc Lambert.
Ah, parce qu'il a, en fait, il a... Non, j'avais pas compris qu'il avait un accent américain.
Il a un accent américain, d'accord. En fait, il fait des idées américains. Oh, et tu vois mieux avec l'autre, le deuxième extrait qui va suivre. Normalement. Là, ils se battent.
Comment, baby?
Pour de vous.
Oh, baby.
Allez, front kick, allez.
Front kick.
C'est le genre... Ah, le genre de...
Je vous ai fait mal?
Attendez, monsieur Lambert, je vais vous aider. Ça va, allez. Ça va? What the fuck, man? Monsieur Lambert, pourquoi vous lui montrez pas comme dans Total Killer quand vous sautez les deux pieds grand écart? Tu vois pas, là, j'ai une luxation de l'épaule. Oh, s'il vous plaît. Please, tu me donnes un break, ok? Là, je suis pas dedans, d'accord? Alors, je vais dans ma loge et je vais prendre une sieste, ok?
Cet homme n'a pas eu la carrière qu'il méritait.
Et sur les tournages, c'est vous qui faites vos combats?
Excuse-moi? Tu lis pas les news, gamine? Marcus Lambert fait always. Ouais,
Marcus Lambert fait always. C'est cascade. Voilà.
En fait, c'est avant tout contre la langue anglaise qu'ils avaient une dent dans ce film, quoi.
Oui, voilà, parce que c'est... Que
elle est autant, sinon plus maltraitée que les jeux vidéo. Mais
oui, voilà, c'est exactement
ça. De... Pardon, c'est Van Damme. C'était pas une parodie de Van Damme, non?
Bah, alors, si c'est vraiment une parodie de Van Damme, c'est très très mal fait, parce que, effectivement,
c'est,
en fait...
C'est pas l'époque où Van Damme était un peu dans le...
Bah,
dans
c'est 2001,
c'est un peu Christophe Lambert aussi, vu le choix du nom. Ah oui. Il y a un petit côté Christophe
oui,
Lambert,
un petit côté voilà.
Jean-Claude Van
Damme. Mais le film ne peut pas se revendiquer du second degré, parce que, justement, il l'est tellement quand il parle des jeux vidéo que c'est impossible. Et moi, de toute façon...
Marcus Lambert, je vois pas.
Ouais, peut-être. Marcus Lambert. Jean-Claude Lambert.
Et Marcus, non, sur jeux vidéo, c'est super.
Mais c'est vrai que, Jean-Claude Van Damme, lui, par contre, il a vraiment l'accent tout le temps quand il parle. Là, il l'oublie une phrase sur deux.
Il le fait très mal.
Il le fait très
mal.
Il l'oublie parce qu'il fait front kick et après, oh, je me suis luxé l'épaule.
Et du coup, il y a un truc que j'ai pas.
Faites pas les surpris, hein, Gérard Vives, le grand rôle de sa carrière, c'est le Juste Prix.
Oui, en plus, c'est comme sidekick du Juste Prix, avec la gaffe.
Du coup, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est en comment ils arrivent à se retrouver à faire des scènes d'action. Alors...
Parce qu'en fait, ils font de la motion capture pour son futur jeu vidéo.
Mais c'est vraiment un film sur des gens qui font un jeu vidéo, quoi.
Oui, enfin, en fait, c'est une espèce, Saitama qui réussit à faire une démo de jeu vidéo. C'est vrai que je suis pas resté vraiment concentré sur, enfin, je vous ai pas raconté l'histoire, mais il va vendre le concept de son jeu vidéo à Ariel Dombal, qui fait le rôle d'une éditrice, qui va ensuite lui voler, en fait,
sa démo,
et après, il va prendre, alors, Saitama, ce qui me fait marrer, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'anti-héros, en plus, dans ce film, parce que, un, déjà, il force son pote qui est pas d'accord, enfin, il retrouve un ami d'enfance qui est programmeur pour l'aider à faire son jeu vidéo, il refuse parce qu'en fait c'était un petit peu sa tête de turc au lycée. Et pour le convaincre, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait du chantage en envoyant une pute le rouler une pelle dans un parking. Et comme ça, il le fait chanter parce qu'il le prend en vidéo, il menace de tout révéler à sa femme s'il l'aide pas. Il est maqué et ça n'empêche pas de se taper Ariel Dombal au détour d'une scène sur un canapé.
Qui ne le ferait pas.
Voilà. Et puis surtout, il y a cette scène vraiment... proprement, je trouve, symbolique du cinéma français, c'est qu'ils vont chercher un moment un financement. Donc, ils vont chez quelqu'un de très riche et au lieu d'y aller juste tous les trois, ils se sentent obligés parce que quiproquo oblige et scène comique oblige, ils sont obligés d'amener deux prostituées avec eux pour, bien sûr, ouais, forcément faire une scène un peu rigolote où l'enfant de 18 ans va coucher, va rouler des pelles à une prostituée. Ouais, donc,
il y a de la dénonce dans le film.
Je vous autorise à sortir des canettes de bière à roteille, à péter pour flatter un peu cet égo masculin que pourrait solliciter ce film. toujours est-il que moi, à la fin du métrage, j'ai essayé de faire le Konami Code pour qu'il soit beaucoup plus drôle au premier degré. Ben, ça marche pas du tout. Donc, bravo Zach Fishman. Enfin, excusez-moi, bravo Patrick Lévy.
Et lui, en deux minutes, t'as regardé s'il avait fait d'autres trucs.
Ouais, il a fait deux films et demi, et d'accord. Puis voilà.
Mais faudra quand même m'expliquer, le mec prend un pseudo, mais il prend un pseudo de nul. Enfin, c'est quoi l'intérêt de choisir ton nom?
Non, mais moi, ça me fait penser à ces films italiens des années 80 où il prenait un pseudo un petit peu américain pour pouvoir se la jouer un peu. Et là, du coup, il a fait exprès pour que ça fasse un petit peu côté jeu vidéo, quoi.
Peut-être qu'il y avait
peu,
des velléités de le vendre à l'international.
Bon, voilà. Merci Fabien.
Mais de rien.
Bien marrant. Rico, je pense que ça serait pas mal si tu peux enchaîner.
Oui, parce qu'on va rester un petit peu sur la bande sur les jeux vidéo. Moi, je vais avoir une vision un petit peu plus large. Je vais aborder un petit peu vraiment en quoi la technologie peut tout changer avec un film de 1995 qui aborde cette question à bras-le-corps, n'ayons pas peur de le dire, qui mêle, je crois, deux axes du cinéma qui n'attendait que ça, d'être mêlé, puisque il s'agit du film de Tabas et de l'informatique avec Virtual Kickboxing, connu aussi sous le nom de Sans pitié ni pardon.
Sans pitié ni croissant.
Voilà. C'est déjà un film.
Expect
déjà un film qui
no
s'excuse
merci.
Pas, quoi.
En anglais, un film canadien de Zaid Allen avec Billy Blanks, Jalal Mehri, Wolf Larson, Anthony Lelongis et Laurie Holden. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'histoire en deux mots est assez simple. Nous sommes donc en 1995. La technologie, notamment de réalité virtuelle, est à son top. Et l'agent Justin Gillette, oui, prononcé comme ça pendant tout le film. L'agent Justin Gillette enquête sur l'Académie des arts virtuels Warbeck. Tous les étudiants étudient avec des casques de réalité virtuelle qui leur ouvrent des perspectives hallucinantes, comme le premier extrait va nous le démontrer.
Voici le centre de nos opérations.
Ça, c'est pas grand-chose.
Ça ne ressemble pas à grand-chose tant qu'on n'a pas mis le casque. Mais je vous promets que vous allez être très impressionnés. Là, sur l'écran, c'est ce qu'elle voit, comme si cela lui arrivait réellement. Et ces programmes sont destinés à l'entraînement. On accompagne chaque étudiant vers plus de bien-être, tant au point de vue physique que spirituel. Elle peut également choisir parmi un nombre illimité de scénarios toute une série d'expériences. L'agonie, le vol, la plongée en apnée, la marche sur la lune, la passion, le sexe.
Le sexe ? Tout ça grâce à l'ordinateur, j'ai bien compris.
Alors on le voit, les technologies
ils mettent sur le même niveau comme la plongée en apnée et le sexe, quoi.
Et marcher sur la lune.
Ouais.
Oui, mais en fait tout ça n'est qu'une façade parce que l'Académie des arts virtuels Warbeck est en fait un centre d'entraînement pour des assassins qui vont se former aux techniques du kickboxing les plus impressionnantes grâce à des casques de réalité virtuelle qui leur permettent d'affronter des adversaires sélectionnés dans une banque de données comportant notamment des ninjas, un samouraï, un clown, un snorque chevelu, une dominatrice, enfin bref, des adversaires impitoyables que l'on affronte dans des scènes qui sont retransmises avec des effets de synthèse de 1980. C'est-à-dire que là, on est quand même dans quelque chose qui est d'une pauvreté absolue, filmé avec des flous dégueulasses qui bavent. Alors, soyons honnêtes, on a des bons artistes martiaux et toutes les scènes qui ne sont pas les scènes virtuelles, les combats sont plutôt pas mal. Alors, plutôt pas mal, mais il y a toujours un petit problème quand vous faites un film d'art martial, c'est que vous devez faire un choix. Est-ce que vous prenez des acteurs qui vont essayer de se battre comme des artistes martiaux? Est-ce que vous allez prendre des artistes martiaux à qui vous allez demander de faire de la comédie?
Et on rappelle que la solution dans ces cas-là, c'est le ninja, c'est-à-dire tu lui colles une cagoule quand il faut se battre et tu lui enlèves quand il faut parler.
Oui, mais pénurie de cagoule, il n'y a que deux ninjas en images de synthèse approximative et artisanale, et donc on a plutôt des gars qui se défendent pas mal, notamment des gens qui sont visiblement des élèves d'arts martiaux qui vont jouer les différentes victimes, les hommes de main qui vont se faire défalquer, mais après quelques combats, et le problème c'est qu'évidemment ils jouent comme des patates, hein. Mais les combats sont plutôt sympas. Alors,
On est dans le film d'exploitation des années 90, hein, ça sent les années 90, il y a de la techno un peu, il y a vraiment des coupes de cheveux, des gueules des années 90, hein, vous avez quand même quelques acteurs qui sont reconnaissables. Le grand méchant est joué par exemple par Wolf Larson, hein, qui a quand même le nom de méchant le plus impressionnant du monde, que vous connaissez un petit peu, c'est le blondinet qui jouait dans la série L.A. Heat, le arme fatale du pauvre, qui
ah,
avait
c'est Wolf quelque chose, non?
Oui, Wolf Larson.
Wolf Larson, ouais, je me souviens
et
très bien de ce mec-là.
C'était fait par donc PM Entertainment, dont la plus-value c'était toujours de faire des cascades super explosives, et ça, pour ça, ils étaient super bons.
Si on peut juste faire un petit parallèle sur ça, enfin un petit passage, pardon, une parenthèse sur cette série, c'était toujours bien parce qu'ils avaient toujours une voiture où ils montaient dedans, elle faisait à peu près aller entre 36 et 39 tonneaux, et ils sortaient sans une égratignure par la fenêtre ou par le pare-brise, et juste avec un petit peu à peine décoiffé, ouais, quoi.
Mais au moins c'était super généreux, un peu comme les films, comme les séries allemandes sur autoroute, oui, hein, dont Julien ça, est ouais, grand fan. C'est-à-dire qu'ils n'hésitaient pas à casser 10 ou 12 véhicules par série, rien que pour ça. On s'ennuie
pas de king shaming.
Mais en tout cas là, donc on a donc Wolf Larson qui joue le méchant. Alors Billy Blanks, un gros master, un black très impressionnant, excellent artiste martial qui manque pas de charisme, et on a évidemment d'autres acteurs qui vont cabotiner. Alors on a Laurie Holden, que vous connaîtrez plus tard dans Walking Dead, elle joue Andrea, elle a une petite carrière, elle a joué dans X-Files, elle a une bonne petite carrière. J'aime bien Anthony DeLonghi's, qui est une gueule.
C'est Anthony DeLonghi's. Non. ça faisait bizarre, j'avais bugué.
C'est comme Anthony DeLonghi's, mais qui jouerait un poil au-dessus, comme nous allons le voir sur le deuxième extrait d'ailleurs, parce que ça cabotine beaucoup dans le petit aperçu de cabotinage.
Où cachez-vous Goldberg ?
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
L'affaire va devoir prendre un coup sanglant et douloureux. Où est Goldberg ?
Je vous jure que j'en sais rien.
Oh, j'espérais bien que vous diriez cela. Quel coffre ! Vous devez chanter à ravir. J'ai trouvé. Monsieur le conseiller, on vous retire l'affaire.
Oh putain ! Oh la vache ! Oh le mec, on dirait qu'il est chez le dentiste, quoi.
Donc c'est ça, on choisit des gars qui savent faire des arts martiaux ou qui savent jouer à la comédie. Et là, le choix, c'était la première catégorie. Le pire acteur, malgré tout, c'est Jalal Mehri.
Ah oui, qu'on connaît très bien ici.
Qu'on connaît très bien, qui est un peu le Jean-Claude Van Damme libanais. Qui fait partie un petit peu de tous ces acteurs qui avaient une base d'art martial, qui ont voulu percer à Hollywood. Et comme il avait une petite fortune personnelle, famille de joaillier au Liban, il a produit pas mal de films, dont ce film, hein, dont il est un coproducteur. Mais le problème, c'est que il sait à peu près se battre, mais il a un peu le charisme d'un expert comptable quand même.
Ah merde, parce qu'en fait, j'allais rajouter que Jalal Mehri, on avait souvent l'habitude de dire que c'est un peu un look-alike de Régis, mais si tu dis qu'en plus il a le charisme, dire ça juste après ce que tu viens de dire sur lui, c'est, du coup, c'est
oui,
pas lui faire honneur.
Alors, c'est
en
un peu
temps,
cruel.
J'ai un ami expert comptable.
Ah, mais il y a des experts comptables parfaitement badass.
Mais on l'avait vu dans un film.
C'est quand on a plusieurs que ça va pas.
On l'avait vu dans un film, on s'est dit putain, mais c'est le look-alike de Régis en fait. De certains angles après.
C'est pas Ben Affleck qui a littéralement joué un rôle de comptable badass dans
oui,
The Accountant.
Oui.
Mr. Wolf.
Mais que t'es sympathique. Mr. Wolf, Larson. Tout se tient, ce film doit être un hommage.
Vas-y, Martin, envoie à Larson, histoire qu'on soit raccord.
Donc voilà, c'est... Alors, bon, Jalal Mehri, il joue assez mal, et surtout ça se voit dès qu'il commence à faire un peu des cascades, il commence à être un peu doublé, et là aussi les cascadeurs se voient. Alors bon, je vais faire vite, hein, c'est assez classique, Justin Gillette rejoint donc Eric.
tous les héros de film devraient s'appeler Justin Gillette, quoi.
Oui, ça casse beaucoup, hein,
je suis à deux doigts d'aller sur change.org pour poser une pétition, ouais, parce que je trouve ça juste parfait.
Et donc, ben, il va rejoindre Eric et il va affronter Wolf Larson, enfin l'ignoble Warbeck. Bon, Warbeck. Voilà, c'est un film de kickboxing assez standard. Si ce n'est évidemment toutes ces scènes, toutes ces scènes en images de synthèse.
Le personnage suffit tout seul à ce film, en fait, quoi. Non, mais il a fait une vanne sur, voilà, ah, sur Warbeck.
Michel Warbeck.
Ouais, c'est vrai que t'as un peu le charisme de Jalal Mehri, finalement.
Son humour.
Si, Michel Warbeck, c'était une bonne vanne, quand même.
D'accord. Et donc, juste pour terminer sur ce film, il faut savoir que c'est un film cross-média, car il y a le jeu vidéo tiré du film.
Ouh.
Et oui, puisqu'il existe un jeu vidéo Expect No, No Mercy, hein, qui est sorti en 1995, qui est en FMV, en full motion vidéo, c'est-à-dire qu'on incruste les acteurs directement dans le jeu vidéo. Bah, l'exemple le plus connu, c'est Mortal Kombat. Et justement, bah, le film est comme, enfin, pardon, le jeu vidéo est un rip-off, est une copie absolument éhontée de Mortal Kombat avec des fatalities. Alors on retrouve la plupart des personnages qu'on a pu voir, donc le clown, la dominatrice, l'espèce d'orque chevelu. Hélas, on peut pas jouer Jalal Mehri parce que si on veut prendre un personnage avec un handicap par exemple. mais par contre, ils apparaissent dans des scènes de transition et en fait, on sent que les trucs ont été faits ensemble parce qu'on voit des images du jeu vidéo dans le film et on voit des images du film dans le jeu vidéo. Et alors là où c'est très très fort, et j'ai mis un extrait. Alors c'est en anglais du jeu vidéo, de l'intro du jeu vidéo, pour comprendre là où ils veulent en arriver, et surtout ils sont conscients de ce qu'ils vont piquer, comme de ce dont ils vont s'inspirer, et ils en ont pas honte, comme on va le voir tout de suite.
Alors juste avant l'extrait, une petite anecdote, c'est qu'il y en a un autre, un jeu vidéo avec des graphismes digitalisés qui n'est jamais sorti, mais qui est aussi avec un acteur qu'on connaît bien, puisque oui. Le jeu s'appelle Steven Seagal is... Ouais. The Final Option.
Oui, le jeu n'est jamais sorti. Le jeu n'est jamais sorti
parce que Steven Seagal était déjà plus assez bankable entre le début et la fin du développement.
Mais c'était pas un jeu de baston versus, hein. Je crois que c'était un jeu où il cassait
non,
la gueule.
C'était un jeu à la Street of Rage,
voilà, ouais.
Mais à l'époque, déjà, Steven Seagal, il sortait uniquement directement vidéo, quoi. Il sortait plus en jeu.
Mais si on peut écouter un petit peu l'extrait, parce que vraiment, dans le genre, on a honte de rien. Et puis en plus, on va être bien dans l'ambiance des années 90, vous allez l'entendre.
Juste un gilette. Oh putain. Oh putain, mais c'est...
Master.
Are you sure that this is what you want to do?
Yes, Master.
Do you know what to expect?
I expect pain, blood, a mortal combat.
Non, comme on l'entend, si c'est Beyond Mortal Kombat,
bah ouais,
j'ai grandi dans les années 90 et ce genre de musique me provoque des zonas, en fait.
J'ai du mal à revoir ça avec nostalgie et
machine.
Je me demande si cette musique de jeu vidéo magnifique a été déjà entendue dans l'excellent podcast Les Démons du Midi.
Non, je pense pas.
De jeux vidéo. Non, oui, ça, c'est bizarre. C'est bizarre, pourtant c'est une belle musique.
Et c'est pareil, petit regret, le joueur du grenier n'a jamais pris ce Expect No Mercy pour faire une analyse, parce que le jeu, ne serait-ce que dans la façon dont il repompe éhontément Mortal Kombat et dans la mocheté de ses personnages et de ses actions, mériterait sa petite mention chez lui, ouais. Franchement. Donc voilà, c'est pour avoir une petite idée de ce que la technologie des années 90 nous annonçait du futur. Et bien, je pense que sans pitié ni pardon, sans budget ni talent, voilà, on est je crois. Comme le dit le héros à un moment, avec des crimes pareils, il y a de quoi les mettre à l'ombre jusqu'à la 10e génération.
Ah mais j'adore ce titre, il est tellement, tu sais, on a l'impression que c'est plus qu'un titre, quoi, c'est une tagline du film,
c'est
genre,
une promesse.
Sans pitié ni pardon, quoi, Balek. Je suis tellement déçu de pas avoir appelé mon
virtual
fils Justin Gillette.
Mais c'est marrant parce qu'en plus pendant que tu parlais, le film, ça me rappelait quelque chose. Et en fait, ça me rappelait un autre film. Je pensais que c'était le même à un moment, mais c'est un autre film qui est sorti la même année en 95, qui s'appelle Grid Runners, avec encore un kickboxer qui s'appelle Dragon Wilson. Et je me permets, pardon, de vous lire juste le dos de la jaquette et comment le film est présenté, parce que c'est vraiment trop beau. La science est parvenue à dépasser les limites de l'imagination. Cyberespace ou monde réel, seul le kickboxing peut sauver la planète.
Mais pas du ridicule.
Ah non, pas du ridicule, non.
Ouais, il y a vraiment eu là dans les années 90 une tentative d'hybridation. C'était pré-Matrix.
C'était énorme, c'était allié deux styles qui fonctionnaient quoi. C'était donc les films de Tabas et puis un petit peu la cybernétique quoi.
Ouais, non, c'est des choses qu'il faut pas faire. C'est comme, faire un film de flic et un film d'orc en même temps. Enfin, c'est des trucs qu'il faut pas faire. C'est pas une bonne idée.
Et juste avant de passer à la suite, faut voir quand j'ai vu les. Moi, je connaissais pas le film. Quand j'ai vu j'ai vu quelques extraits. Quand j'ai vu la baston avec le clown, la dominatrice et tout, mais ça m'a valu un bon gros fou rire en open space. Quoi.
Non, c'est un film qui est très visuel. On le retrouve sur le net sans trop de difficultés. Ouais, si vous cherchez un tout petit peu sur YouTube,
pas en VF,
vous allez le trouver en français sans trop de difficultés.
Plutôt en VO quand même, je crois. Mais
très long, il existe aussi, je l'ai vu en français.
Bon, merci beaucoup Rico, belle découverte.
Ce fut un plaisir.
Bonne découverte. Régis, à toi. Hein. Je sais qu'on va changer un petit peu de registre.
Alors, on va changer de registre. Disons que on va mettre un peu de temps à retomber sur nos pattes et à revenir à la thématique cyber, mais je vous garantis que le film est 100% dans la thématique. Moi, je vais vous parler de Vibration.
Putain, alors, je vois très très bien ce film, alors, mais pour que tu retombes sur tes pattes, je suis impatient.
Tu vas devoir faire
sur ses mains,
je pense que tu vas devoir faire des pieds et des mains pour retomber sur tes pattes.
Ça y est, ça commence.
Alors, Vibration, c'est quoi? Vibration, c'est l'histoire de TJ, qui est musicien, qui joue dans un groupe de rock. Et qui répète dans un garage en vue d'un gros concert. TJ, il sait tout faire. En fait, il sait faire de la guitare, il sait faire du synthé. Il est vraiment multi-instrumentiste. Alors, le premier problème du film, on va pas y aller par quatre chemins, c'est que la seule version française a visiblement été doublée au Québec. Ça, c'est le premier extrait.
Écoute, TJ, je passe te prendre ici aux environs de 5h30 et Derek sera ici, lui, dans une heure pour prendre le matériel. Tu peux laisser le garage ouvert?
Ouais. Oh, j'allais oublier, vous savez comment vous rendre au club?
Voilà, donc... il doit se rendre au club pour faire son concert avec ses potes. Et donc, c'est sur la route du club qui tombe sur une bande de loubards. Et que là, la première partie du pitch du film commence. Parce qu'en fait, ils vont lui faire avoir un accident de voiture. Ils vont lui écraser sa bagnole avec un engin de chantier. Et ils vont lui couper les mains. Donc voilà,
c'est sans pitié ni pardon là.
Ah, c'est sans pitié ni pardon, c'est pas de bras, pas de chocolat, le film en gros. Et donc évidemment,
en plus, ils font ça la veille de Pâques.
Donc TJ, du coup, il est un peu triste quand même de plus avoir de main. Parce qu'il peut plus jouer de guitare, il peut plus jouer de piano.
Ouais, et, c'est devenu un vrai branleur.
Enfin... Ouais, disons que c'est compliqué. Et il s'enfuit à New York en fait. Je sais pas trop pourquoi, où là, en fait, tout part en couille, ça devient une espèce de SDF, enfin, il est vraiment dépressif, et là, à ce stade, vous vous dites, mais en quoi c'est un nanar, en fait, parce que là, je suis en train, depuis tout à l'heure, vous parler d'un musicien qui se fait couper les mains et qui devient à moitié clochard, quoi. Alors déjà, pourquoi? Parce qu'en fait...
C'est vrai, pour l'instant, c'est du Ken Loach.
Ouais, voilà,
c'est du Ken Loach, un peu, pour le moment, quoi.
Mais le problème, c'est qu'en fait, ils lui ont fait des moignons en mousse... Mais que visiblement déjà il les met par-dessus en fait ses mains, donc il a des bras qui sont à peu près deux fois plus longs que des bras normaux. C'est soit ça, soit quand il a des parce qu'à un moment on lui fait des mains en mousse et là il se retrouve en fait avec juste des gants en imitation latex quoi. Donc il a la longueur des bras qui évolue en fonction de ces trucs. Quand c'est les moignons, c'est des bras qui font une fois et demie la taille normale, et sinon c'est pas très crédible quoi. Donc en fait c'est assez terrible en fait, parce que le mec il a plus de mains et en fait il arrive quand même à faire chier tout le monde. Il est hyper désagréable, donc il se fait jeter par tout le monde et même les dialoguistes de la VF on en remis une couche dans la sadisation vis-à-vis du personnage.
Tu fous le camp, sinon je te botte le cul. Est-ce que tu m'as bien compris?
Je comprends parfaitement que tu me considères comme un raté, mais je vais chercher du travail, je vais me reprendre en main.
Donc oui. il se reprend en osé. Main. Il se reprend en main grâce à ses gants, à ses mains en mousse dont je vous ai parlé. Et du coup, les mains, le coup des mains en mousse, c'est vraiment, mais c'est horrible à dire en fait, parce que voilà, mais ça rend le truc encore plus ridicule en fait. Parce qu'en fait, il a ses mains en mousse et il arrive à faire des trucs. Il y a un côté un peu pratique, quoi. Il arrive à défendre une fille, à arrêter un couteau. Il arrive à éteindre un début d'incendie avec ses mains en mousse. À un moment, sa meuf, elle lui claque la porte au nez. Et lui, il met sa main en mousse pour empêcher la porte de se fermer. Enfin, c'est assez malaisant, en fait.
Qu'est-ce qu'il se dit, bang bang avant l'heure.
C'est l'homme qui valait 3 milliards, mais version mousse, quoi.
Et donc, bon, je vous rassure, il y a quand même une forme de rédemption. C'est-à-dire qu'à un moment, il va pas bien, il s'endort dans un carton, dans un entrepôt dégueulasse. Et en fait, il se réveille dans une rave. Donc c'est là où on commence à retomber dans... Le film date de 1994, on commence à retomber dans notre thématique, parce qu'il rencontre à la fois Anamika, qui est un peu sa muse, enfin qui va devenir sa muse, et la musique électronique. Et là, du coup, c'est quand même une grosse baffe dans sa vie, ça va lui permettre de revenir, de devenir moins pète-couille et de revenir un petit peu à la surface, quoi. Donc voilà. Petit détour un peu long pour arriver à la thématique du podcast, mais bon, c'est le pitch du film, quoi. Et donc, grâce...
David Guetta Origins.
Presque. Mais donc, grâce à Anamika, il va rencontrer, il va trouver un logement chez elle, qui va lui être dans une espèce de baraque en copropriété. Et là, on arrive dans le cœur du sujet. Donc, sa proprio fait de la soudure, et son voisin du dessus est un gros geek. Donc on a la solution.
TJ, cette ceinture devient ton deuxième cerveau. Tu vois, chaque note que tu joueras sur le clavier sera automatiquement transférée sur ce disque, et exactement comme le piano mécanique. Et ça enregistrera simultanément chacune des pistes sur cette cassette numérique.
J'ai mis également un coussinet de feutre à chaque extrémité pour que tu puisses bien sentir les touches.
Donne-moi tes mains.
Oh mon Dieu!
Ouais.
Génial.
Je vais jouer de la musique.
C'est un véritable réveil sensoriel.
Alors voilà, c'est un véritable réveil sensoriel grâce à des sortes de gros gants de Mickey en ferraille.
Et aussi une grosse consommation de champignons, j'ai l'impression.
Qui lui donne un air encore plus ridicule. Donc oui, il a des mains bioniques, en fait. C'est ça le deuxième effet qui se coule du pitch. Donc c'est un musicien qui se fait couper les mains et qui peut se remettre à la musique avec des mains bioniques fabriquées par son colocataire. Donc après 50 minutes, quand même un peu dur, un peu long, où bon, les mains en mousse, ça va un moment, c'est la souffrance, etc. C'est assez rigolo, mais c'est un peu long. On a quand même une sorte d'épiphanie, quoi. Et on se dit, bah là,
il... Ken Loach au frère Wachowski. Au sœur Wachowski, pardon.
Et donc on se dit que après toute cette attente, il va enfin pouvoir rejouer de la musique. On se dit qu'il va nous se poser au piano et que là, des torrents de larmes vont nous envahir et que en fait, ça va être magnifique. Sauf que évidemment, ben c'est pas vraiment ça. Donc il s'approche du piano, il se concentre et il joue ça.
Lederman, Eugène.
Continue, c'était magnifique.
Oh putain, en même temps, te sens pas obligé. Hein.
Et non, c'était pas magnifique, c'était juste de la grosse merde, en fait. Et là, on se dit, le mec, il a fait chier la moitié de New York. Il a saoulé tout le monde pour nous faire ça. Ils lui ont fabriqué des mains bioniques, des machins. Enfin, voilà, on a les oreilles qui saignent. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Ça, c'est juste le début. Parce que, rappelez-vous, quand il a passé la nuit dans l'entrepôt, il a découvert la musique électronique. Et donc... Forcément, là maintenant, il retrouve ses capacités de pianiste et ce con va se mettre à l'électro. Et donc, juste quand on croyait que le sommet du ridicule avait été atteint, eh ben, on monte pas de un niveau, on monte de 10 niveaux.
On a quelque chose de nouveau qui va vous faire éclater le cerveau, vous libérer l'esprit et vous mettre en état de transe. Son pays, c'est l'espace tout entier. Sa musique va vous électriser, elle va vous faire éclater et vous transporter dans l'univers. Voici Cyberpunk.
Voilà, c'est... Alors là, donc, quand je disais qu'on on montait dans le ridicule, comme le disait Rico pendant l'extrait, en fait, il s'invente une personnalité de musicien qui est Cyberstorm, comme on l'a entendu dans, dans l'annonce. Et donc, en fait, il monte effectivement sur scène avec un costume de Robocop en mousse masqué. Et, et il joue ses gammes. Et là, déjà, c'est super gênant. Et après, ce qui est hyper gênant, c'est qu'en fait, la musique tourne et il prend des solos de danse, en fait, en allant devant le public et en dansant, mais de manière hyper maladroite, quoi. Enfin, c'est...
C'est Robocop qui danse, en fait.
C'est ouais, voilà, faut imaginer un espèce de Robocop en latex, une mélange de Robocop et de méchant de Power Rangers qui se mettrait à danser sur scène sur cette musique-là, quoi. Et donc, voilà, donc petit à petit, c'est une montée dans le film cyber, en fait, parce que c'est toute cette imagerie, Cyberstorm, cette musique qui rejoint un peu ton film précédent, Rico. Les mains en ferraille bionique, enfin, la totale, quoi. Et le truc, en fait, qui est assez fou, alors, juste pour la petite histoire, il finira par retrouver les méchants qui l'ont tabassé et puis en fait il se vengera en leur branchant, en les enfermant dans une salle et en branchant un haut-parleur qui diffuse sa musique.
C'est cruel.
Sans plus, pardon.
C'est, voilà.
Mais est-ce que la fin David Guetta par arrive au cube,
c'est hyper sadique quand même.
Et en fait, ce qui est assez fou dans ce film, c'est le casting, parce que le héros, depuis le début de ce film, quand même globalement oublié, et j'ai pas envie de dire oubliable, parce qu'en fait c'est une vraie perle, je trouve. C'est un truc qui c'est James Hurley. Et qui joue en fait dans Twin Peaks un rôle assez important qui est revenu dans la troisième saison. Sa meuf c'est Christina Applegate, donc qui est quand même une actrice voilà de
mariée deux enfants quand même, ouais, les visiteurs en Amérique,
hein. Ouais, et puis c'était pas au moment le
ah oui
donc ça arrive le film a... alors fun fact, le film a été réalisé par Michael Pasternak qui est juste aujourd'hui le boss de Lionsgate, en fait un des gros
pontes, ouais.
Studio américain, indépendant mais au sens américain du terme, donc un énorme studio. Et au casting musical, en fait, il y a des gens, en fait, il y a Sven Vatt, il y a Mosses on Acid, il y a des groupes comme ça qui ont une vraie légitimité en fait sur la scène électronique de l'époque. Et donc ça rajoute au côté complètement taré du film où on se dit mais comment c'est possible, parce que c'est filmé comme une série américaine qui passerait le samedi après-midi, quoi. Et mais avec tous ces éléments où on se dit mais à la limite ça aurait été un film de franc-tireur complètement indé, bon pourquoi pas, mais là en plus c'est un gros truc, quoi. Donc c'est un peu le film de la génération techno, sauf que bah, la génération techno elle est pas au courant que ce film existe.
Non mais c'est
là,
cool,
c'est une malheur comme ça, ouais. Cette génération,
hein. Ils ont engagé des musiciens professionnels pour le casting musical, puis les autres ont pas mis la main à la pâte, quoi.
Bah, moi je pense qu'ils ont réussi à embobiner en fait tous ces gens en leur disant que ça allait être le sur cet aspect film générationnel, quoi, en leur disant que ça allait être le film qui allait marquer tout le monde, etc. Donc je pense que tout le monde a joué un peu le jeu et
à l'époque, en dehors de la scène électro, ils étaient quand même pas super connus et pas forcément super chers non plus, hein.
Bah ouais, mais après c'était quand même une scène où, enfin moi je suis pas spécialiste, hein, de la techno et de l'électro, mais c'était une scène justement où les artistes se mettaient très peu en avant, etc. Enfin il y avait quand même une sorte d'éloge de l'underground, et là on est quand même à l'opposé d'une posture underground, quoi. Enfin on est dans
parce que le mec il est dans le matu-vu le plus total, quoi, avec son costume, ses mains bioniques, donc c'est
on dirait un film Disney, en fait, enfin de ces années-là.
Ils ont distribué de l'ecstasy à tout le monde, et puis voilà, quoi.
Il y a peut-être eu des trucs comme ça, mais voilà, du coup moi, c'est un de mes nanars cybertech voilà, de cœur, quoi.
Mm. En fait, c'est vraiment le... Ouais, c'est un espèce de mélange entre Daft Punk Origins, David Guetta Origins, sauf que ça, c'est pas un problème de surdité, c'est un problème de main.
Et Bob Sinclair Terminal.
Et putain, ouais, non, je l'ai jamais vu, mais pareil, les quelques images qu'il y a sur le net, la bande-annonce m'avait rendu fou aussi, quoi. Bah, le moment où tu le vois danser sur scène.
Bah, tu sais, c'est ce genre de film où quand tu trouves, parce que moi, on l'avait trouvé en VHS, en fait, dans un cache converteur, c'est en fait quand tu trouves la VHS, tu lis le truc derrière, t'en as jamais entendu parler, tu fais, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, c'est pas un film où le mec se fait couper les mains et se fait greffer des mains bioniques pour faire des concerts. Et en fait, c'est exactement ça, quoi. Y a pas d'entourloupe, y a pas de truc, c'est ça.
Et même il danse en plus.
Et en plus, il danse, quoi. Donc il y a ce petit.
Et en plus, il a une belle choucroute aussi.
Ouais, alors là, oui,
c'est un qui est quand même, ouais, quand même méga BG, mais là, il a une choucroute de fou, quoi.
Après, voilà, je pense que ça rejoint aussi le film de Rico, moins le film de Fabien, parce qu'on est en France un peu plus tard, mais là, en fait, c'est la génération de films 90-99, quoi.
Ouais, ouais. Mid-90, total.
Ouais, où là, on est en plein dans le truc, et en fait où je pense qu'aujourd'hui il est urgent en fait de retourner piocher ces films là pour les revisiter, parce que pour les revisionner, parce qu'il y a des perles dedans qui à l'époque nous semblaient peut-être plus crédibles que les films des années 80 ou des années 70 qu'on pouvait trouver dans nos pêches au VHS, mais qui maintenant ont vraiment pris la patine,
et même dans l'esthétique en fait. Quand on a commencé le site, on était au début des années 2000, donc les années 90 nous paraissaient pas avoir un exotisme temporel particulier.
Et là,
donc
ça y est, hein,
soit les années 70, ouais, les années 80, il y avait des coupes de cheveux, il y avait la mode, là maintenant ça y est, maintenant le début des années 2000 aussi, hein, on commence à voir vraiment les coupes de cheveux, les vêtements.
Et puis c'était aussi encore une grande époque de la VHS et des vidéoclubs dans les années 90, parce que on trouvait encore des choses qui sortaient pas du tout au ciné, qui sortaient directement en vidéo, donc
mais je pense que les années 2010 aussi seront hyper lookées, notamment
toute façon, toutes les décennies, mais là ce qu'il y a, c'est que
ça aussi, je pense que dans 20 ans les films des années 2010, on se moquera du look des gens dans les années 2010 qui sera aussi typé. Alors, en fait, on a un peu triché parce qu'on a finalement peu parlé d'informatique. On a parlé beaucoup de cyber, de jeux vidéo. Alors, pour préparer un petit peu ça, on s'était fait un film avec Fabien, qui était une catastrophe. Fear.com.
Ouais, Fear.com, putain, c'est dommage.
Terror.com en français.
Terror.com. Ce qui est marrant, parce que c'est un site, alors c'est un mélange, en fait c'est un peu The Ring version site web, en fait quand vous y allez vous mourrez quelques jours après, même s'il faut vraiment se concentrer sur le film pour comprendre que c'est ça, parce que le scénario est totalement abscon. Mais un truc qui nous avait fait marrer, c'est que en fait c'est le site internet en question, c'est fear.com, sauf qu'ils n'avaient pas les droits du site, en fait ils n'avaient pas acheté le domaine, donc dans le film ils vont sur le site fear.com.com. voilà, ils vont sur terror.com.com en fait, et voilà, mais le film est vraiment pourri, mais ça joue pareil sur le côté, le mal se glisse partout, et pourquoi pas dans les jeux vidéo, et pourquoi pas dans les sites internet, quoi.
Bon, bah merci les amis, je pense qu'on a pas fait le tour, on pourra probablement y revenir.
Mais je pense que contrairement à d'autres sujets qu'on maîtrise plus, parce que justement on s'est plus penché sur les thèmes, je pense que celui-là c'est vraiment un truc
à creuser,
à encore vraiment explorer. Le film des années 90, plus généralement, c'est le moment à mon avis de se revisionner plein de trucs, de ressortir les VHS à propos desquels on se disait à l'époque ouais bon ça passe quand même. Je pense que là maintenant le coup de vieux est passé, et puis les effets spéciaux ont super vieilli, et puis avec cette thématique cyber aussi,
c'est
quoi.
C'est vrai que le pourquoi pas de l'époque peut devenir un bon sang, mais c'est bien sûr aujourd'hui, quoi.
Et tous les nanars informatiques, en fait, si vous êtes vraiment informaticien, ce genre de choses, il y a vraiment les écrans qui se reflète sur les visages des gens qui les utilisent, les ordinateurs qui s'allument qui arrivent directement sur la page de Windows dès que vous l'allumez, les téléchargements à la clé USB.
C'est vrai que c'est bourré de clichés informatiques maintenant.
C'est une usine à clichés, d'autres l'ont fait mieux que nous là, de relever tout ça, mais même dans des bons films, c'est vraiment l'usine à clichés.
Merci à vous les amis, merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez des recommandations à adresser à nos auditeurs sur ce sujet ?
Moi oui, pour rester un peu dans le domaine des jeux vidéo, je conseille un excellent podcast qui s'appelle Les Démons du Midi, qui est hosté par deux personnes au talent vraiment incroyable. Enfin, j'adore les écouter parler. C'est un podcast en fait sur les musiques de jeux vidéo, donc d'aujourd'hui et d'hier. C'est hosté par Pipo Mantis et Gotoz. Alors le principe est très simple en fait, donc un numéro sur deux il y a une thématique spéciale, donc ça peut être une thématique sur les jeux de sport, les jeux de rôle ou les trucs un peu plus général, et puis une autre fois c'est Jukebox, donc des musiques lancées comme ça aléatoirement, et c'est très très bien parce qu'en fait ils lancent les musiques en entier et après ils parlent un petit peu des jeux vidéo en 2-3 minutes, et les anecdotes sur en parlant aussi donc des créateurs de la musique en question, et les anecdotes et le fait de quand ils parlent des jeux est tout aussi intéressant que la musique elle-même. C'est un plaisir de les écouter, ça passe mes crèmes, et je suis vraiment en admiration sur ce petit podcast vraiment très très bien foutu.
Ouais, carrément, je confirme et je plus sois.
tu plus sois, c'est bien.
Vite fait, pour rester sur les jeux vidéo, pour rester un petit peu sur les jeux vidéo, la dernière émission, j'avais conseillé l'émission de Karim Debbache, Chroma sur le cinéma. Avant Chroma, il a fait une émission qui s'appelait Crost sur les jeux vidéo dans le cinéma, et notamment un sujet sur lequel on reviendra peut-être un jour, qui sont toutes les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Mais je crois qu'il a fait une émission sur Gamer.
Oui, bien sûr.
Il revient justement en détail
Je tiens à remercier Jérémy Morvan qui m'a passé une copie de Gamer, justement, parce que j'avais plus la mienne. Voilà, donc de Crust.
Les vrais, c'est-à-dire moi, ont le DVD à la maison.
Oui, je sais, mais moi je n'ai que des VHS déjà, et je t'ennuie.
Et les vrais ont mieux à faire.
Okay.
Après, oui, c'est vrai que là-bas, à Grenoble, les lecteurs DVD sont pas encore arrivés.
Nous, on a des lecteurs disquettes.
On en trouve à nos, hein, quand même, je crois. Bon, eh ben, merci beaucoup. Donc, le podcast Nanarland est un podcast Riviera Ferraille. Nous avons la fierté d'être au sein du line-up des podcasts produits par Henri Michel. Et on est les derniers arrivés avec le Bureau des Mystères, à qui on fait un coucou, parce qu'ils nous ont fait un big up dans la dernière émission et ça nous a fait bien plaisir. Et donc voilà, donc on vous invite à aller sur la page Riviera Ferraille pour voir toutes les émissions proposées. Et puis également, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Nanarland pour découvrir toutes les richesses qu'on a accumulées depuis maintenant, 15 ans ?
Plus.
15 ans, 15 ans depuis 2001.
15 bonnes années sur l'univers du nanar, donc il y a de quoi faire. Allez, à bientôt.
Bien René Coty était président de la République quand on
J'ai été lancé sur Minitel.
À bientôt pour une autre émission sur un autre sujet. Ciao.
À bientôt, ciao.
Salut.